Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce vendredi saint, en ce jour où l'Église est en deuil à cause de la mort de notre Sauveur, posons-nous, chers fidèles, juste une question. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il tant souffert? La moindre souffrance du Christ, nous enseigne saint Thomas d'Aquin, aurait suffi à racheter le genre humain de tous les péchés. Le docteur angélique nous le fait même chanter dans son hymne Adorote Devote, où il affirme qu'une seule goutte du sang du Sauveur, parce que unie à Dieu le Verbe, avait la puissance d'effacer tous les péchés du monde. Cuius una stilla salvum facere, totum mundum quid ab omni scelere. Pourquoi donc Jésus-Christ a tant souffert dans son corps, se laissant flageller, couvrir de crachats, couronné d'épines? Pourquoi toutes ces souffrances atteignant son cœur, abandonné de son peuple, de ses disciples, poursuivi par les prêtres de la synagogue, victime dans son cœur, pourquoi encore notre Seigneur se fait-il victime dans son âme, lorsqu'il dit au jardin des Oliviers, mon âme est triste jusqu'à la mort, et surtout son cri sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi donc tant de douleurs physiques, morales et même spirituelles, si le moindre acte d'amour du Sauveur, le plus petit geste, le moindre sourire de l'enfant Jésus suffisait déjà et d'une manière surabondante à racheter tous ces milliards de milliards d'hommes depuis Adam jusqu'à ceux qui vivront à la fin du monde? Saint Thomas en donne plusieurs motifs, mais nous retenons un seul qui, bien que en soit le moins grand, devrait nous intéresser le plus parce qu'il nous touche de plus près. C'est que le Christ souffrant nous donne ainsi le plus grand témoignage de son amour. L'amour, chers fidèles, se prouve rarement par les paroles. On peut tout dire, on peut tout écrire. Le dicton polonais dit « papier souffre tout ». Tout, aussi bien la vérité que le mensonge. L'amour digne de ce nom se prouve par les actes et surtout par le sacrifice. C'est pour cela que notre Seigneur a dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons tous que Jésus-Christ donna des preuves de son amour, et non seulement à ses amis, mais à ses ennemis même, à ses bourreaux, pour qu'il a prié au moment du crucifiement. Ce qui frappe peut-être le plus dans cet amour de notre Seigneur qu'il porte sur nos âmes, c'est l'union très intime de la plus profonde tendresse et de la force la plus héroïque dans la souffrance et dans la mort. Chez nous, chers fidèles, ces deux qualités de l'amour, tendresse et force, sont souvent séparées. Et pourtant, elles ne peuvent vivre que très intimement unies. La tendresse sans la force devient langueur. la mièvrerie. La force sans tendresse devient rudesse et amertume. Considérons donc la force et la tendresse du Sauveur pour nous. Tendresse. Malgré toutes les ingratitudes, les haines que le Sauveur rencontra sur son chemin, sa douce miséricorde ne se démentit pas un instant. Nous autres, nous avons facilement une tendre affection pour quelques personnes de notre famille ou de nos amis. Mais souvent, cette tendresse est toute sensible, superficielle. Elle ne va pas jusqu'à l'âme de ceux que nous disons aimer. Prions-nous beaucoup pour eux? Désirons-nous pour eux la vie éternelle? Et les autres, moins privilégiés, ceux qui nous ont offensés, blessés, nous sommes pour eux durs et impitoyables. La tendresse du Christ est tout autre. Elle est profonde. Elle se porte sur l'âme d'abord, pour lui désirer le ciel. Et en même temps, elle est immense. Elle s'étend à tous, sans exception. Notre Seigneur est le pasteur des âmes. Toutes peuvent devenir les brebis de son bercail. Il les connaît toutes. Il les appelle chacune par son nom. Il les protège contre l'ennemi. Il s'inquiète des absentes. Il court à leur recherche et les prend sur ses épaules. Que dit-il aux pécheurs, à nos chers fidèles? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, éployés sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Il a pitié de nous, pitié de la misère où le péché nous conduit. Il nous porte au repentir sans nous juger sévèrement. Tout comme il a reçu Madeleine repentante, comme il a pardonné à la femme adultère que l'on s'apprêtait à lapider, comme il a promis quelques instants avant d'expirer le ciel au bon larron. C'est bien de lui qu'a prophétisé Isaïe. Il ne brisera pas le roseau à demi rompu. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Le cœur de Jésus est pour nous un exemple de tendresse. Il l'est aussi de force et de générosité. Des âmes généreuses s'offrent parfois en victimes pour obtenir la conversion d'un pécheur ou pour abréger à un être très cher les souffrances du purgatoire. Notre Seigneur, lui, s'est offert en victime pour des milliards d'âmes, pour toutes sans exception et pour chacune en particulier. Et si quelqu'un, un adulte, est privé du bénéfice de la rédemption, c'est parce qu'il le refuse, par orgueil ou pour satisfaire sa convoitise. Personne, cher fidèle, ne nous a aimés et ne nous aimera jamais comme notre Seigneur. À propos de son cœur, transpercé au calvaire, il nous dirait: ce qui laisse la plaie de mon cœur ouverte, c'est mon amour. Je veux prouver aux âmes que mon cœur ne se ferme pas. Bien au contraire, mon plus grand désir est que les âmes entrent par cette plaie de mon cœur, abîme de charité et de miséricorde. Ce n'est que dans ce cœur de Dieu qu'elles trouveront le remède pour adoucir leurs souffrances et fortifier leurs faiblesses. Qu'elles me tendent la main, moi-même je les y conduirai. C'est sur la croix que Jésus-Christ nous a prouvé son amour. C'est par sa croix qu'il nous attire à lui. Il nous fait porter sa croix pour nous donner le moyen de lui témoigner à notre tour notre amour. Mais le problème est, chers fidèles, que nous voulons séparer Jésus de la croix. Nous voulons posséder le doux Jésus. Oui, mais tout seul. Et la croix, qu'elle s'en aille. Nous crions sans en nous rendre compte avec la foule devant Pilate. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, tel qu'il est avec ses épines, ses clous. Nous ne voulons pas de cet homme. Nous voudrions un Jésus souriant, un Jésus fabuleux, où tout nous attire et nous plaise. Mais non, il faut le prendre tel qu'il est. Il ne changera pas ses habitudes. Il ne laissera pas à la porte de notre vie sa croix, sa couronne d'épines. Tout cet attirail encombrant est douloureux. Mais que faut-il faire? Il faut les prendre tous les deux. La croix, sans Jésus, ce serait trop dur. Jésus, sans sa croix, ce serait trop doux. Que ces quelques considérations nous aident à faire de tout notre cœur l'adoration de la croix qui aura lieu dans quelques instants. Que nos lèvres, que nous poserons sur le crucifix, qu'elle signifie notre amour envers celui qui nous a aimés jusqu'à la folie, folie de la croix. Que le cœur douloureux et immaculé de Marie nous y aide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.